Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Martine Matatia, écoutante bénévole de l'association Noah, osez le dire, osez ER, c'est important. Depuis 10 ans, vous êtes donc écoutante bénévole et présidente depuis le 1er janvier 2017 et dont le but est d'amener les femmes victimes de violences conjugales à parler et surtout, là en l'occurrence, au sein de la communauté juive. Martine Matatia, bonjour.
Bonjour à tous. Oui, je suis très heureuse de pouvoir parler de l'association Noah, osez le dire, qui a été créée donc en 2007 avec le soutien d'un certain nombre d'associations et du consistoire. En fait, Noah est une ligne d'écoute anonyme et gratuite, confidentielle, pour les victimes de violences conjugales de la communauté juive. C'est une ligne d'écoute et d'orientation, c'est-à-dire que c'est souvent un premier pas pour parler des violences qui s'exercent à la maison, dans le couple. Et en fait, à partir de cette écoute bienveillante et bien sûr sans jugement, on essaye de trouver des orientations qui peuvent répondre aux attentes de la plante, qui vont de la médiation conjugale à éventuellement la rencontre d'un psychothérapeute ou d'une personne pouvant éventuellement soutenir la personne dans les difficultés qu'elle rencontre. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir une aide sociale, d'avoir un accompagnement aussi pour ses enfants. En fait, le principe de Noah, c'est qu'à partir de l'appel, on essaye vraiment de trouver les orientations qui correspondent le mieux aux attentes et aux besoins de la plante, quel qu'il soit.
Vous êtes en train de trouver des référents ici, à Strasbourg, avec l'ASJ, avec le rabbin Rebibo, par exemple?
Oui, tout à fait. En fait, l'expérience des 10 ans d'écoute m'ont fait comprendre qu'il y a 4 orientations qui sont très souvent faites au niveau des appelantes. Elles concernent l'aide sociale, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est très important qu'on puisse mettre en relation une appelante avec une assistante sociale qui peut vraiment l'aider à faire un certain nombre de démarches et à comprendre quelles sont les démarches qu'il faudrait qu'elle engage. La deuxième personne qui est très souvent demandée, c'est un psychothérapeute, parce que c'est très difficile au niveau de la violence conjugale de retrouver les bons points de repère par rapport à l'estime de soi, par rapport au respect, par rapport à cette relation de couple qui est très défaillante et qui est beaucoup sur le mode de l'agressivité. La troisième orientation qui est souvent demandée, c'est un rabbin, parce que en fait, il s'avère que dans la plupart des cas, les femmes rencontrent un rabbin qui n'est pas toujours, très à l'aise avec ce qu'elle lui raconte. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir mettre en relation une appelante avec un rabbin formé, avec un rabbin qui a une expérience de ces situations et qui va pouvoir répondre à un certain nombre de questions concernant la possibilité d'impliquer donc ce référent religieux pour essayer de convaincre le mari agressif ou le compagnon agressif de changer de comportement. Et le dernier référent qui est malheureusement assez régulièrement demandé, ce sont les coordonnées d'un avocat spécialiste en droit de la famille pour mieux connaître ses droits. Donc, c'est un travail de terrain. Noah reçoit, c'est vrai, beaucoup d'appels d'Île-de-France parce que Noah est une structure qui a été créée en Île-de-France. Mais c'est vrai que je suis attachée à ce que les communautés, les grandes communautés juives de province puissent trouver des réponses locales suite à un appel à Noah, osez le dire.
Selon vous, en quoi la parole des femmes, elle pourrait être plus contrainte au sein d'une communauté, de la communauté juive et d'une communauté de province, comme vous dites?
Alors, la grosse difficulté qui m'a été rapportée par les référents que j'ai contactés, c'est qu'en fait, dans les petites villes de province, on se connaît, surtout dans une communauté juive qui est une petite communauté, beaucoup de gens se connaissent. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir parler de sa situation de violence familiale, hein, de sa violence dans la sphère privée, au sein d'une communauté où on sait assez rapidement de qui il s'agit. Et ça, ça gêne énormément les personnes qui sont victimes de violence, parce qu'il ne faut pas oublier une chose fondamentale, c'est que quand on est victime de violence conjugale, on vit au quotidien avec la peur de la personne qui nous agresse, et la honte, parce que c'est très compliqué. Je vous assure que c'est très compliqué d'essayer de raconter que la personne avec qui on partage sa vie, la personne avec qui on est en couple depuis, enfin comme quand on se met en couple avec l'espoir que ça dure, et cette personne avec qui on est des enfants, pouvoir être capable de dire que cette personne nous manque de respect, a des attitudes absolument répréhensibles en termes de respect à notre égard régulièrement, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et je voudrais dire aujourd'hui, et je le pense profondément, qu'il faut énormément de courage à une femme victime de violence conjugale pour pouvoir en parler et dire « oui, la personne avec qui je vis me manque de respect et a des comportements avec moi totalement répréhensibles ». C'est difficile. Vraiment, je rends hommage à celles qui vraiment franchissent cette étape, parce que c'est une étape vraiment douloureuse. Mais en même temps, cette étape, elle est porteuse d'espoir. Et vraiment, pour celles qui appellent, je pense que le fait de se sentir entendue sans jugement et avec la possibilité d'être orientée vers des référents professionnels qui vont pouvoir les aider à franchir les étapes qu'elles ont besoin de franchir, que ce soit une étape de travail sur le couple avec de la médiation conjugale, ou que ce soit une étape de séparation quand les choses sont arrivées à un point où on peut plus faire en sorte que ça s'arrange, et ben en tout cas de savoir que on va pas rester dans cette situation de violence, c'est quelque chose qui est pour moi un levier très important pour se dire je suis pas condamnée à vivre avec quelqu'un qui ne me respecte pas.
Et de déculpabiliser. Vous mettez également les proches dans cette boucle en les impliquant, parce que pour vous, tout le monde est concerné quand il y a un cas de violence conjugale au sein d'une famille.
Très franchement, avec l'expérience de 10 ans d'écoute, je peux vous dire que souvent, dans le premier cercle de connaissances, c'est-à-dire les parents, les beaux-parents, la fratrie, les amis les plus proches, c'est très rare que personne ne soit au courant. C'est-à-dire que quand c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez très bien, vous sentez bien à plusieurs indices fiables qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la relation de ce couple. Et franchement, je pense que qui est une marge de progression pour faire reculer les violences conjugales dans notre communauté, c'est que les personnes proches qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce couple osent parler à la personne qui pense être victime de violence conjugale et lui dire « Écoutez, je ne sais pas très bien comment t'aider, mais ce que je sais, c'est qu'il existe des associations, qu'il existe des personnes qui sont vraiment formées pour t'apporter des repères et pour t'apporter des orientations qui peuvent te permettre de sortir de cette situation. » C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux personnes proches qui savent de prendre en charge une situation qui souvent les dépasse et qui est très lourde.
Oui.
Mais on leur demande juste d'être un relais d'information. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas faire. Je ne pourrais pas résoudre ton problème, mais je sais à qui t'adresser pour résoudre ce problème. Parce que le problème des victimes de violences conjugales, c'est qu'on a tendance à penser que c'est que le problème des victimes dans la violence conjugale. Mais c'est pas le problème que des victimes. Si vous êtes la mère, la sœur, l'amie d'une personne victime de violences conjugales, c'est aussi votre problème.
De responsabiliser tous les intervenants autour de la victime. Vous avez l'impression, vous, que on va dire que le débat se démocratise, que les victimes osent parler, qu'il y a un tabou qui est en train de tomber?
Je dirais pas qu'il y a un tabou qui est en train de tomber, mais qui est en train de se fissurer. C'est-à-dire que on se rend bien compte, y compris dans les discours des rabbins, parce que moi j'écoute quand même pas mal de rabbins de toute sensibilité évoquer la réalité de ce problème. Et effectivement, dans toutes les sensibilités, quelles qu'elles soient au niveau de notre judaïsme, tous les rabbins vous diront « oui, on ne peut pas dire le contraire, les violences conjugales existent, y compris dans les couples pratiquants. On ne peut pas se permettre de dire « ça n'existe pas chez nous ». C'est un discours qui a existé il y a quelques années. Je peux vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, c'était un sujet dont on ne parlait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de filtre sur ce qui est possible d'exprimer. Et effectivement, les violences conjugales jusqu'à il y a une vingtaine d'années, je dirais même, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, c'était un sujet dans lequel il y avait très peu de gens qui osaient s'aventurer.
Alors que maintenant, la parole se libère et les femmes, surtout, sont entendues. Et vous en êtes le plus bel exemple. Vous êtes en contact avec Janine El-Koubi, qui, elle aussi, milite pour les droits des femmes au sein de la communauté juive. Vous avez des actions concertées ?
Tout à fait, tout à fait. D'abord parce qu'elle elle connaît Strasbourg parfaitement. Moi, je suis à Paris, donc je suis toujours, intéressée par des personnes qui, sur le plan local, ont la connaissance des partenaires de la communauté. Qui peuvent s'associer à nos démarches. Je trouve que c'est une personne extraordinaire parce que elle a depuis des années essayé de se battre et elle y arrive autant que c'est possible d'y arriver pour les femmes justement à qui on refuse le guet, qui est une violence absolue. C'est-à-dire que il est absolument inadmissible. Inadmissible que le guet soit un moyen de chantage qui est malheureusement souvent un moyen de chantage financier. Et quand c'est pas un moyen de chantage financier, c'est un moyen d'empêcher parfois une femme jeune de refaire sa vie et de se dire puisque on est divorcée civilement, en tout cas elle se remariera pas religieusement si j'ai pas envie qu'elle se remarie religieusement. Ça, je trouve ça d'une violence absolument inacceptable. Et il faut vraiment qu'on se batte, nous tous de la communauté, hommes et femmes, j'insiste, pour que ce genre de choses ne puisse plus se produire. C'est une aliénation absolument scandaleuse.
Martine Matatia, votre motivation à vous, on l'entend, vous êtes engagée, vous êtes militante et vous êtes très concernée, vous êtes également écoutante bénévole depuis 10 ans. C'est quoi cette motivation qui vous tient, qui vous porte ?
Alors déjà, je me sens très très impliquée en tant que femme. Pour moi, 50% de la communauté juive, c'est des femmes. Alors, 50% de personnes qui ont besoin de faire entendre leur voix, à multiples niveaux, les violences conjugales, c'est un aspect, vraiment douloureux de leurs conditions. Mais c'est vrai que moi, en tant que femme juive, j'ai connu, par exemple, une éducation sexiste où, par exemple, pour citer un exemple tout à fait ordinaire, dans ma génération, c'est-à-dire moi, j'ai 60 ans, dans ma génération, ça ne se faisait pas qu'un homme change la couche de son bébé, ne fasse la vaisselle, passe l'aspirateur. Enfin, ça, c'était des choses absolument inédites quand ça arrivait dans ma génération. Je trouve que voilà, ça fait partie de certains clichés qui me dérangent beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est une action de femme. Mais c'est une action de femme qui veut absolument que les hommes se sentent concernés, parce qu'il y a tout à gagner aussi pour que les hommes aient plus de place dans la vie de la maison. Je trouve que c'est tout à fait souhaitable. C'est tout à fait souhaitable aussi de se dire qu'on est partenaire à tous les niveaux et pas seulement, la charge mentale des femmes par rapport à la vie de la maison, j'avoue que c'est écrasant. Moi, j'ai 3 enfants qui sont aujourd'hui adultes, mais c'est vrai que j'ai travaillé à 4/5 de temps. Donc, je gardais le mercredi pour mes enfants, pour rester avec mes enfants. Mais quand on travaille à 4/5 de temps avec effectivement des enfants en bas âge, c'est un challenge de dingue. Donc, c'est pas spécifique à la communauté juive. Ce que je veux dire, c'est que la place des femmes, d'une manière générale, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et en ce qui concerne particulièrement la communauté, il y a une chose qui me touche très profondément. C'est le sort des enfants qui grandissent dans la violence conjugale. C'est-à-dire qu'on leur enlève le droit de grandir dans la sécurité affective de parents qui sont copilotes pour que la façon dont ils sont élevés soit quelque chose de serein. Et c'est vrai que les violences conjugales, ça vole les enfants au sens de leur prendre quelque chose auquel ils ont droit, c'est-à-dire la sécurité affective. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été pour moi un levier majeur pour me battre, pour lutter contre les violences conjugales, parce que ce sont des enfants qui ont un avenir qui est mis en difficulté parce qu'ils vivent dans un climat où il y a de la violence ou verbale ou physique, mais en tout cas une violence qui est vraiment un affront qu'on peut faire en termes de respect d'autrui. Moi, il y a une chose auquel je tiens énormément, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et c'est vrai que la violence conjugale, ça écrase toute notion de respect. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été un levier pour moi. Tout le monde a droit au respect. Tout le monde a droit au respect. Et le judaïsme, dans le cœur du judaïsme, il y a le respect d'autrui. On ne peut pas imaginer que le judaïsme fasse l'économie du respect de l'autre. Et le couple, s'il y a vraiment un endroit, un lieu où justement ce respect doit être porté au plus haut, c'est bien le fait d'avoir des enfants ensemble et de montrer à nos enfants que les valeurs qu'on leur transmet, c'est du respect. Et ça a été pour moi le levier majeur de mon engagement pour Noah.
À Strasbourg, aujourd'hui, dans notre communauté, une femme a envie de prendre contact avec vous. Concrètement, ça se passe comment ?
Alors concrètement, pour le moment, puisque on lance cette communication sur plusieurs grandes villes de province, il y a Strasbourg bien sûr, mais il y aura aussi Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux. Alors comment on s'y prend ? On appelle la ligne de Noah qui est le 01 47 07 39 55. Et effectivement, si vous appelez en nous expliquant que vous êtes originaire de Strasbourg, nous serons en mesure, les écoutantes seront en mesure de vous proposer une orientation sur Strasbourg qui sera adaptée à votre attente ou à vos besoins.
Martine Matatia, donc de Noah, Osez le dire, Osez ER, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions et puis bravo pour votre engagement.
En tout cas, je voulais juste préciser que nos permanences téléphoniques fonctionnent du lundi au jeudi de 10h à 16h et que en l'absence, enfin si vous n'êtes pas disponible à ces horaires-là, vous pouvez laisser un message vocal sur notre téléphone ou vous pouvez aussi nous proposer un autre créneau de pour nous appeler en écrivant par mail à noahosezledire@hotmail.fr. Vous serez recontacté très rapidement. On est là pour vous. Nous sommes là pour vous.
C'était important de le dire. Martine Matatia, merci infiniment.
Merci à vous et j'espère que les femmes qui se sentent concernées auront confiance puisque nous nous sommes engagées, toutes les écoutantes se sont engagées à une confidentialité totale.